Bonsoir, comment allez-vous ? Dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France, je lisais que pour la Saint-Valentin, Opinionway et vous financez avaient réalisé un sondage dont voici le résultat. Chez les 25-34 ans, acheter un bien à deux est plus engageant que de se marier. Les sous, plus importants que la promesse, plus fiable en tout cas. Je regardais également il y a peu un reportage où dans un pays l'opéra était gratuit et puis finalement les places sont devenues un peu payantes. Car ceux qui réservaient venaient ou ne venaient pas. Quand on paye, là encore, on tient son engagement. Ça laisse rêveur. Alors voici où je veux en venir. Et si l'école était payante par les enfants ? Oui, mes chatons, par vous. Vous participeriez, à hauteur de vos forces, bien sûr, au salaire de vos professeurs. Autrement dit, le temps passé devant un écran serait passé devant une pile de petits pois à écosser. Difficile à organiser, certes, mais sèche-t-on un cours qu'on a payé ? Ne rend-on pas un devoir pour lequel on a payé la correction ? Je sens bien que je ne me rends pas très populaire sur ce coup-là, mais j'ai tellement entendu « t'inquiète, maman, je gère » que je me suis dit que je pourrais gérer moi aussi.
Bonjour, je suis Johanne, j'ai 13 ans et je voudrais savoir si toutes les richesses individuelles étaient réparties équitablement au sein de la population mondiale, quel serait le niveau de vie moyen de chaque individu ? Merci de me répondre.
Bonsoir Johanne, c'est une question qui est assez difficile que tu poses. Peut-on lui répondre, Sylvie Brunel ?
Alors Johanne pose une question extrêmement difficile parce que ce qui caractérise l'humanité de 7,3 milliards d'êtres humains, ce sont les inégalités. Les inégalités sont absolument considérables et le cinquième le plus pauvre de la population mondiale ne dispose que d'une part extrêmement limitée du revenu mondial. On considère qu'un cinquième de la population mondiale est très très pauvres, mais dans les pauvres extrêmes, ceux qui n'ont qu'un dollar, l'équivalent d'un dollar par jour pour vivre, c'est un milliard de personnes. Donc, globalement, les richesses ont tendance à augmenter au niveau mondial. On dit que les pauvres d'aujourd'hui sont moins pauvres que ceux d'hier. On le voit par exemple avec l'allongement de l'espérance de vie. En 1960, on était 3 milliards sur la Terre, 3 milliards seulement, et on vivait 45 ans. En moyenne. Aujourd'hui, on est 7,3 milliards, donc plus du double, et on vit en moyenne 70 ans. C'est-à-dire que globalement, l'humanité se porte mieux aujourd'hui qu'hier. Malheureusement, les inégalités s'accroissent, non pas tellement entre les pays, mais à l'intérieur des pays. C'est-à-dire que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans les pays africains, en Inde, vous avez des gens extrêmement pauvres à côté d'une petite minorité d'extrêmement riches. Et le seul moyen de réussir à lutter contre cela, c'est de mener des politiques sociales de redistribution. C'est-à-dire de mettre en place des programmes qui allouent aux plus pauvres des revenus minimums. Par exemple, au Brésil, vous avez la Bolsa Familia, la Bourse Famille. Si les mamans scolarisent leurs enfants, elles ont l'assurance de recevoir un revenu minimum. C'est comme ça que le Brésil a pu lutter contre la pauvreté. La pauvreté, ce n'est pas une fatalité. Quand un État la prend à bras-le-corps, quand il s'occupe des pauvres, on parvient à la faire reculer très rapidement.
Voilà, Sylvie Brunel est géographe, économiste et écrivain. Elle est également professeure des universités à Paris 4 Sorbonne. Vous trouverez les références de ses livres sur le site des Petits Bateaux. Dans les Petits Bateaux de ce soir, justement, nous saurons pourquoi on met des lettres qu'on n'entend pas à la fin des mots en France, si les enfants des hommes préhistoriques avaient des jouets, et si tout dans la nature suit des règles mathématiques. Pour le moment, nous sommes un petit peu dans le brouillard.
Bonjour, je m'appelle Inès, j'ai 8 ans et je voudrais savoir pourquoi le brouillard disparaît quand le jour se lève. Au revoir.
Solution, j'ai 4 ans. Je voudrais savoir la différence entre le brouillard et la brume. Merci.
Emmanuel Beaucry.
Bon, bonjour Inès, bonjour Lucien. Alors, la brume et le brouillard, ce sont des gouttelettes d'eau en suspension dans l'air sous forme liquide. quand il y a beaucoup de gouttelettes, bah, ça réduit la visibilité. Et alors, les météos, c'est très simple. On considère que si on peut voir, pas bien voir en dessous d'un kilomètre, c'est du brouillard.
Un kilomètre, c'est ça, la règle.
Par contre, entre un kilomètre et cinq kilomètres, on appelle ça de la brume. Mais c'est le même phénomène, simplement, dans un cas, il est très dense, dans l'autre cas, il est peu dense. Alors, en général, les brumes et les brouillards se génèrent en cours de nuit parce que l'air se refroidit et il y a un phénomène physique qu'on connaît bien, c'est la vapeur d'eau. C'est un gaz incolore, inodore, sans saveur, on peut pas le voir, on en a devant nous, se condense par le froid et ça va créer soit des petites gouttelettes d'eau, voire des petits cristaux si la température est en dessous de 0 degré. Quand toutes ces gouttelettes apparaissent, quand il y en a beaucoup, ça va d'abord faire de la brume, et ensuite ça va faire du brouillard. Alors le brouillard a la particularité, en général, quand le jour se lève, le soleil apparaît de plus en plus, il chauffe de plus en plus notre atmosphère, et le brouillard a une particularité, il va falloir chauffer la masse de brouillard pour la faire disparaître. Il va falloir que les rayons du soleil traversent le brouillard pour taper sur le sol, se transformer en infrarouge pour chauffer l'air qui petit à petit va augmenter la température de l'air et nos petites gouttelettes d'eau vont disparaître, vont redevenir du gaz. Et à ce moment-là, le brouillard ou la brume vont disparaître. La grosse difficulté, c'est que les rayons, il faut qu'ils traversent tout le brouillard pour arriver à toucher le sol. Et en général, ils ont du mal. Il y en a très très peu qui passent. Mais au moment où un brouillard commence à se déchiqueter, à disparaître, ça va en général très très vite. Et la grosse difficulté pour les prévisionnistes, c'est on prévoit bien l'arrivée du brouillard. Et après, c'est à quel moment exactement ça va commencer à disparaître ou pas. Et ça se joue, vous voyez, faut être franc, à quelques dixièmes de degré, c'est trois fois rien. Alors les erreurs de prévision dans les brouillards, ça se fait très facilement, malheureusement.
À quelques dixièmes de degré?
Oui.
Ah, c'est à ce point.
Ça peut se jouer à très très peu de choses. J'ai vu des situations où le brouillard se disparaissait en moins d'une heure, et dans d'autres cas, le brouillard restait pendant 2 heures, 3 heures, voire 6 heures, voire toute la journée.
À moins d'un degré?
À moins d'un degré, ça peut jouer.
Ça, c'est étonnant alors. Je ne pensais pas que c'était aussi sensible.
Le brouillard est un des éléments météo les plus difficiles à prévoir, surtout sa dissipation. Et ça se joue vraiment à trois fois rien. Un tout petit peu plus de vent, un petit peu moins de vent, un degré de moins, un degré de plus, ça fait la différence.
Surtout que ce n'est pas rien le brouillard. Enfin, c'est très joli, c'est très poétique, mais enfin quand même on se perd. Regardez en mer combien se sont perdus.
Mais baladez-vous dans le brouillard, vous verrez, tous les sons sont atténués. Il y a une autre façon d'écouter la nature, c'est extraordinaire.
Les sons sont atténués dans le brouillard.
Les sons sont un peu atténués, beaucoup moins que quand il y a de la neige, mais on a une espèce d'atténuation, c'est un peu plus calme, c'est moins des bruits secs, c'est des bruits plutôt étouffés. Alors ça dépend de la densité du brouillard, mais on le sent.
Emmanuel Bocry dirige l'unité médiane Météo France, il est ingénieur météorologiste.
Le verrou, la cloison, l'écrou, faire tomber la serrure, frapper un grand coup pour de bon, faire un trou, puis faire tomber le mur, puis courir, courir plus vite, quitter le site, rejoindre la sortie, franchir la limite, bâton dynamite, enfin sortir d'ici. Pourquoi pas? Plus de jours, un peu plus de ciel, revoir le paysage, monter dans la tour, en voir de plus belle, oui, avoir la vue large, oui, enfin voir la vue, enfin voir dessus, prendre de la hauteur, enfin voir la vue, enfin voir l'issue, voir si elle est meilleure. Pourquoi pas? Sauver de ma prison, pourquoi pas l'évasion?
Mmh.
faut que j'y aille, aller tenter ma chance. Reprendre de la taille, passer la muraille et voir la différence. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas?
Vous avez deviné, le titre de la chanson c'est Pourquoi pas et c'était Mathieu Bogart.
Les petits bateaux sur France Inter.
C'est la première fois que ce jeune et passionnant mathématicien vient répondre au petit bateau aux questions des enfants laissées sur le 01 56 40 43 57.
Coucou tout le monde, je m'appelle Margot, j'ai 14 ans et je voulais vous poser une question. J'aimerais savoir si ceux qui nous entourent dans la nature suivent des règles mathématiques ou pas du tout. Merci d'avance.
Bonsoir Margot, dis donc, peut-être que comme Michael Launay, tu feras l'école normale supérieure, peut-être que tu feras une thèse de mathématiques, peut-être que tu écriras un livre qui s'appelle Le Grand Roman des Maths, qui sera édité chez Flammarion, peut-être que tu créeras une chaîne de mathématiques sur YouTube qui s'appelle Micmat. Elle est mûre, Margot, pour suivre votre chemin, on dirait, non, Michael ?
Alors, c'est une question qui est très, très intéressante et que se posent les mathématiciens depuis très, très longtemps, c'est-à-dire le lien entre les mathématiques et la nature et le monde réel. Parce que les mathématiques, c'est avant tout une science de l'abstrait. C'est-à-dire que quand on pense les nombres, finalement, les nombres, ce n'est pas des choses qu'on croise dans la rue ou qu'on voit. C'est-à-dire que c'est uniquement une idée. C'est quelque chose qui ne se passe que dans nos cerveaux. Et quand on fait des mathématiques, on ne travaille qu'avec des objets abstraits, des choses qui n'existent que dans nos têtes, mais avec lesquelles on va faire des raisonnements. Et une fois qu'on a ces objets-là, eh bien, on va essayer de les utiliser pour comprendre le monde qui nous entoure.
Le monde pratique, ce coup-ci.
Voilà, le monde pratique, le monde physique, le monde qui est fait d'atomes et qui nous entoure. Et c'est toujours assez fascinant de voir, effectivement, le lien assez intime qui existe entre les mathématiques et le monde réel. Déjà, dans l'Antiquité, par exemple, le mathématicien qui s'appelait Pythagore avait l'habitude de dire que tout est nombre. C'est-à-dire que pour lui, dans le monde, quand il observait quelque chose, il y voyait des nombres partout. Et pour lui, tout pouvait s'expliquer par les nombres. Et puis, un peu plus tard, il y a un célèbre physicien qui s'appelle Galilée, qui lui a dit « le monde est écrit en langage mathématique ». C'est-à-dire que lui, il étudiait effectivement plutôt les planètes, il étudiait la course des planètes autour du Soleil, il étudiait l'astronomie. Et là-dedans, il voyait des figures géométriques et il essayait de comprendre le cours des planètes par les mathématiques. Et ça, c'est vraiment fascinant parce que, en réalité, on se rend compte que, oui, les mathématiques et les mathématiques simples se trouvent dans le monde sans qu'on sache exactement pourquoi. Et finalement, c'est une chance parce que si le monde ne s'écrivait pas en langage mathématique, ça pourrait être beaucoup plus difficile de le comprendre et puis de faire des inventions, d'utiliser des technologies qui utilisent toute cette science. C'est-à-dire que si on est capable d'avoir de la technologie, c'est parce qu'on est capable de comprendre le monde et de l'écrire en mathématiques. Un exemple très simple, si on regarde le cours des planètes autour du Soleil. Eh bien, à première vue, ça ressemble à des cercles, mais en réalité, c'est pas tout à fait des cercles, c'est ce qu'on appelle des ellipses, c'est-à-dire des cercles qui sont un peu aplatis.
Des ovales ?
Alors, les ellipses, c'est des cas particuliers d'ovales. C'est-à-dire que les ovales, c'est une famille de figures qui est très large, dans lequel, voilà, si on dessine quelque chose qui a une forme d'œuf, grosso modo, c'est un ovale. Les ellipses, c'est vraiment un cas très particulier parce que ce sont tous les ovales qui peuvent s'obtenir précisément en prenant un cône et en le tranchant par un plan. C'est-à-dire qu'on prend une forme de cône, on le tranche de façon droite, par un coup de couteau, et on obtient, dans ce cas-là, une ellipse. Et du fait qu'on peut l'obtenir justement par un cône, eh bien, ça en fait une figure géométrique qui est très facile à étudier. Il y a beaucoup d'ovales qui sont beaucoup plus compliquées à mettre en équation et à être étudiées géométriquement. Mais par chance, eh bien, les figures géométriques que décrivent les planètes autour du Soleil, mais aussi les comètes et toutes sortes d'autres objets dans l'univers, eh bien, sont précisément ces figures géométriques-là qui peuvent très simplement se mettre en équation et très simplement s'expliquer par les mathématiques.
Merci Michael Launay. Micmat. Voilà le mot qu'il faut retenir pour vous retrouver sur YouTube. De toute façon, il est bien entendu sur le site des Petits Bateaux. Yves Coppens aussi sait communiquer sa science aux jeunes esprits. Yves Coppens est paléontologue, il est professeur honoraire au Collège de France, membre de l'Académie des sciences. Ses derniers livres, vous les trouverez également sur le site des Petits Bateaux, mais je peux tout de même vous dire qu'ils sont édités chez Odile Jacob.
Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 7 ans et demi et je voudrais savoir si on a retrouvé des jouets des gens de la préhistoire. Merci de me répondre. Au revoir.
Bonjour, je m'appelle Antoine et j'ai 6 ans et je voudrais savoir si les hommes préhistoriques avaient des jouets. Merci.
Oui, alors à Camille et à Antoine, je répondrai bien sûr qu'il y avait des enfants à cette époque préhistorique. Les hommes préhistoriques avaient aussi des petits-enfants et des enfants qui, comme tous les enfants du monde, aiment beaucoup jouer et aiment beaucoup jouer avec des objets qui sont ou ordinaires ou extraordinaires ou spécialement conçus pour que l'on joue avec eux. Or, on a trouvé en effet des objets qui pourraient bien être des jouets, par exemple des objets miniatures de certains objets réels. On joue avec un petit marteau qui ne sert à rien, mais qui est comparable au petit marteau de l'adulte. Et par ailleurs, on a trouvé des salles de classe, c'est-à-dire que on a trouvé des endroits où les hommes, les grands tailleurs de pierre, taillaient pour des élèves, et les élèves avaient peut-être 15 ou 20 ans, et donc tout autour d'eux, les élèves faisaient des pierres moins bien taillées que celles qui étaient au milieu, et au-delà de ce cercle-là, il y avait des pierres qui étaient taillées n'importe comment, sans comprendre le fil de la roche, sans comprendre la forme de la roche. Et il y a des chances que ce soit le maître au milieu, les élèves autour, et puis les enfants qui tentaient d'imiter les élèves et le maître, et qui étaient au-delà du cercle de l'école, en quelque sorte. Donc les jouets, ça existe, on en connaît beaucoup, on en connaît dans toutes les cultures. Et je pense, dans une certaine mesure, que au même titre qu'aujourd'hui, mais ça, c'est une idée personnelle, hein, au même titre qu'aujourd'hui, on joue avec les nounours en plus, je pense que l'homme de Néandertal et l'homme de Cro-Magnon avaient des petits mammouths en plus pour s'amuser.
En fait, comme il y avait des cahiers de brouillon, en fait, il y avait des pierres de brouillon.
We walk around pretending we're all grown up. Hey, rich girls, what can you tell me? Why? You're so stuck up and act so down. I tell you everything I know, any little thing I know. I tell you everything I know, any little thing I know. What a lovely way with words, is that the way I see the world? It's just the way I see the world. We're all grown up. Hey, rich girls, what can you tell me? Why? You're so stuck up and act so down. I tell you everything I know, any little thing I know. I tell you everything I know, any little thing I know. Your house last weekend, you was like, come on man, you have to point out everything that's bad.
Vous écoutez les petites Batoks sur France Inter. C'était The Virgins, The Rich Girls.
Bonjour, je m'appelle Grace, Je suis une Anglaise, j'ai 7 ans. Je voudrais savoir pourquoi on met une lettre à la fin d'un mot qu'on n'entend pas. Merci pour répondre à ma question.
Je voudrais savoir pourquoi on met une lettre à la fin d'un mot qu'on n'entend pas. Est-ce que c'est une spécialité française, ça? Et si oui, pourquoi Philippe Boulat-Mareuil?
Alors Grace, non, en anglais c'est peut-être encore pire, mais l'orthographe française, c'est vrai, est compliquée, elle est remplie de pièges, malgré les différentes réforme ou tentative de réforme. On sait que plusieurs lettres peuvent représenter un son unique. Il y a plein de façons de noter le son « et », par exemple. On est loin d'avoir une correspondance, oui, une lettre, oui, un son.
Oui.
Donc en ça, on ne respecte plus les principes de base de l'écriture alphabétique. Il y a effectivement beaucoup de lettres muettes, surtout des consonnes, mais pas seulement à la fin des mots. Et ça n'empêche pas non plus que l'orthographe apporte une information. C'est l'écrit seulement qui permet de distinguer le genre d'adjectif comme « il est vrai » masculin, « elle est vraie » féminin, « la personne » et le nombre des verbes. Si je dis « je chante, tu chantes, il chante » au pluriel...
On ne sait pas s'il y a ENT...
C'est seulement à l'écrit qu'il y a une différence. À l'oral, on n'en entend pas, sauf dans un cas de liaison. Mais le fait est que l'orthographe française n'a pas évolué au même rythme que la prononciation. On a tendance à dire qu'elle reflèterait plutôt une prononciation du Moyen-Âge et même du XIIe siècle, parce que du XIIIe au XVIe siècle, il y a un mouvement qui s'est développé et qui a fait tomber les consonnes à l'oral. On pouvait prononcer des mots comme arc, mortel, sans les consonnes finales, et à l'écrit même. Dans des manuscrits anciens, on peut trouver et. ET écrit seulement avec un E, plaisir, même sans R final, parce que c'est qu'on prononçait plaisir. Et au XVIe siècle, les grammairiens sont intervenus, ils ont insisté pour qu'on prononce les consonnes finales, surtout des mots d'une seule syllabe qui pouvaient être homophones, c'est-à-dire qui se prononçaient de la même façon, sinon comme dot et do. Donc la dot, c'est ce qu'on donnait lors des mariages. Brut et bru. La bru, c'est la belle-fille. Et ces grammairiens ont en partie été entendus. À la Renaissance, donc il y a beaucoup de lettres qui ont été ajoutées pour se rapprocher de l'origine de l'étymologie latine. Donc c'est comme ça que des séquences CT ont été ajoutées, comme dans respect, même si on ne prononce pas. Ça pouvait être aussi simplement pour faire joli que des lettres ont été ajoutées, comme les Y ou des Z qui sont apparues à la fin de mots.
C'est un peu précieux.
On a trouvé une trace avec le mot « né ».
Donc soit pour le sens, soit pour faire joli, soit parce que c'est une tradition qu'on n'arrive pas à jeter, quoi. On
s'accroche. C'est qu'à une certaine époque, on prononçait ces consonnes. Oui. Bon, aujourd'hui, même peut-être sous l'influence de l'orthographe, tendance à prononcer davantage ces consonnes finales, même s'il reste beaucoup de lettres muettes. Et il y a aussi la liaison qu'on fait dans « ils ont », très intéressant.
C'est vrai.
Alors, je ne dis pas par là qu'on fait de plus en plus de liaisons, mais ça fait aussi apparaître des sons.
Sinon,
on ne les
entendrait pas.
Voilà.
Philippe Boulat-Mareuil, c'est joli le son « œil » d'ailleurs, pas si fréquent en français. Donc Philippe Boulat-Mareuil est chercheur en linguistique au CNRS. Les petits bateaux, c'est terminé pour ce soir, mais vous pouvez bien sûr réécouter l'émission quand bon vous semble ou bien venir sur notre site. Merci à Marjorie Devoucou, à Eliane Girard, à Jean-Baptiste Audibert et à Maxime Ingrand. Je vous retrouverai ce soir à 22h dans État d'Esprit. Nous recevrons Vinciane Desprez, qui est philosophe, éthologue, psychologue, mais qui a des choses tout à fait étonnantes et inhabituelles à dire sur les animaux. Voici Denis Chessou pour La Tulu, mon petit loup.